Merci. Je vais commencer mon texte. L'esthétique rhapsodique de l'hybridation des formes à l'inversion des valeurs dans tous les siècles. Excusez-moi. L'esthétique rhapsodique de l'hybridation des formes à l'inversion des valeurs dans tout le ciel au-dessous de la terre, le syndrome de Wendy d'Angelica Liddell. Angelica Liddell, née Angelica González en 1966 en Espagne, est une artiste pluridisciplinaire. La pièce Tout le ciel au-dessous de la terre, écrite en 2013, est fondée sur l'hétérogénéité des formes théâtrales et sur l'interaction des différentes modalités artistiques à partir des composantes de plateau. Angelica Liddell appartient à la famille des écrivains de plateau tels que le définit Bruno Teckel. L'écriture de plateau repose sur une contribution active et performative de l'acteur avec des matériaux scéniques. Dans cette communication, nous étudierons les enjeux formels de la pièce en analysant les interactions entre le texte, la scène, la performance de l'actrice. De là, nous verrons comment se déploie une esthétique rhapsodique dans la pièce, ce qui nous permettra d'aborder concrètement les spécificités esthétiques de l'écriture de plateau. Nous terminerons cette étude en expliquant comment cette poétique rhapsodique, dans l'hybridation des formes et des matières scéniques, aboutit à une transgression, inversion des valeurs. Premier volet, enjeu formel, une polyvalence des composantes scéniques. L'écriture de plateau ressemble à un patchwork qui assemble plusieurs morceaux de tissu sur un même vêtement. Cette écriture se caractérise par son hybridité, son hétérogénéité. La pièce de Liddell est une création-installation scénique impliquant un travail à la fois hybride et fragmentaire. Il s'agit d'une représentation rhapsodique telle que l'a théorisé Jean-Pierre Sarrazac en L'avenir du drame, 1981, dans lequel l'auteur définit l'écriture de plateau comme une technique basée sur le jeu et les dialogues des arts et des médiums. La rhapsodie au théâtre, c'est la forme la plus libre qui permet de mêler de manière dynamique les différents arts et de les faire s'interpénétrer. C'est l'expression du choix du dramaturge rhapsode qui rassemble à sa guise ce qu'il a préalablement déchiré, fait voler en éclats. Cette liberté repose donc sur la primauté donnée à l'improvisation. Créer, c'est faire entendre et faire voir ce que la performeuse choisit de montrer et de dire. Cet affranchissement des codes scéniques va de pair avec un affranchissement par rapport au texte préalablement écrit. Et maintenant, analysons de près la structure de la pièce. Tout le ciel au-dessous de la terre est une pièce constituée de fragments divers, presque autonomes, les uns par rapport aux autres. Chacun de ces fragments est défini par un titre. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette pièce en apparence décousue, déchirée? Le fil rouge de la pièce, c'est un leitmotiv, la répétition ou le retour d'une scène cruciale d'un film d'Elia Kazan qui s'appelle Splendor in the Grace. Le titre de ce film fait lui-même référence à un poème anglais de William Wordsworth. Voilà. En effet, dans le film de Kazan, ce poème fait l'objet d'une étude en classe. Une professeure de littérature anglaise, Miss Metcalfe, interroge son élève, l'héroïne de l'histoire, sur ce poème. Or, dans la pièce de Liddell, ces vers célèbres du poète anglais font retour comme un refrain tout au long du spectacle. Le spectateur entend la voix enregistrée de l'actrice du film récitant ses vers et voit aussi le texte du poème projeté sur écran. La traduction du poème est la suivante. Bien que rien ne puisse faire revenir le temps de la splendeur dans l'herbe, de la gloire dans la fleur, nous ne nous plaindrons pas, mais trouverons notre force dans ce qu'il en subsiste. Cette conception résignée de la vie résume à elle seule le destin des personnages du film Splendor in the Grace. En effet, les deux amants adolescents renoncent à leur amour à cause du regard de la famille et de la tradition puritaine américaine. Or, c'est contre cette résignation qui s'élabore la pièce de Liddell. Le premier tableau de la pièce s'intitule justement Splendor in the Grace. Dans le deuxième tableau, Liddell fait référence aux héros de James Matthew Barry, Peter Pan et Wendy. Liddell prend le syndrome de Wendy en miroir du célèbre syndrome de Peter Pan, concept forgé par le psychanalyste américain Dan Clay en 1983. Le syndrome de Peter Pan consiste à avoir peur de grandir et de devenir adulte. Qu'est-ce qu'alors que le syndrome de Wendy? C'est le syndrome lié à la peur de l'abandon et de la perte de l'amour. Dans les écrits de Barry, Peter Pan amène Wendy sur son île, le pays imaginaire Neverland. Transposé du roman de Barry à la pièce d'Angelica Liddell, les personnages de Peter Pan et de Wendy dialoguent à propos de l'amour. Wendy supplie sans cesse Peter de ne pas l'abandonner, de ne pas l'oublier. L'île Neverland devient, dans le troisième tableau, l'île norvégienne d'Utøya. Or, cette île n'est pas imaginaire, elle existe réellement. C'est sur l'île d'Utøya que s'est déroulée en 2011 une terrible tragédie, bien réelle celle-là. L'attentat commis par le terroriste Anders Breivik contre des jeunes militants socialistes âgés de 16 à 26 ans. Dans ce tableau, Liddell met en scène un Peter et une Wendy qui partagent leur dégoût à l'égard des adultes. À l'opposé du fameux personnage de Wendy, qui finalement grandit et devient adulte et mère, le personnage de Wendy chez Angelica Liddell refuse de grandir, de vieillir, elle demeure l'éternelle femme-enfant. Pour ce personnage, il est nécessaire de garder un regard idéaliste sur le monde, de garder ce pouvoir de révolte face à la violence du réel. Or, dans le film Splendor in the Grace, les personnages adolescents acceptaient de devenir adultes en renonçant à leurs idéaux de jeunesse. Ici, Liddell, à travers la voix du personnage Wendy, critique de manière ironique les paroles du poème manifestées dans le film pour cultiver une posture de la non-résignation. Cela crée une indétermination et une friction des postures énonciatives. Le plateau de Liddell, donc, devient un espace polyphonique où se mêlent différentes voix, différents genres, romans, cinéma, poésie. Dans le tableau suivant, intitulé « Une berceuse pour Wendy », l'île d'Utøya, personnifiée par une chanteuse à travers une voix spectrale, invite Wendy à s'endormir pour pouvoir survivre à ces événements traumatiques. L'autre tableau montre des couples de danseurs de valse à Shanghai qui dansent en même temps qu'un groupe de musique orchestrale joue sur la scène. Le texte convoque ainsi plusieurs modes artistiques et littéraires. Cinéma, poésie, roman, conte, berceuse, faits divers. Tous ces tableaux mentionnés finissent aussi par composer une vaste fresque où dialogues, chansons, musique, films, danse, chorégraphie, performance, le tout établissant une forme à la fois intertextuelle et interdisciplinaire. Cette intertextualité et cette interdisciplinarité au fondement de l'écriture de plateau déstabilise la scène, engendre des jeux d'intégration, désintégration ou bien collage, décollage. Ces voix polyphoniques tissées l'une avec l'autre permettent une interaction active entre le texte et la scène pour qu'ils puissent s'inscrire l'un dans l'autre. Une telle constellation de textes sur scène forme une esthétique rhapsodique. Enfin, la structure rhapsodique sur scène inscrit une dialectique entre le réel et l'imaginaire, le lyrique et le dramatique, le verbe et l'absence de verbe. Face à cette réciprocité et à cette hybridité infinie, les frontières deviennent précaires, prêtes à se dissoudre. Cela permet à l'actrice performeuse de briser et de franchir les barrières de la représentation. Et deuxième volet, enjeu textuel, ambivalence thématique et une poésie aporétique. Nous avons expliqué dans quelle mesure l'esthétique rhapsodique dans la pièce tend à fusionner le corps du texte et le corps de la scène. Dès lors, nous cherchons à savoir comment cette esthétique rhapsodique contribue à la mise en place d'une sublimation ou sublimité du mal et d'une inversion des valeurs. Le théâtre de Liddell, avant tout, est le lieu de la tension et de la dynamique entre les matériaux scéniques. Il est crucial d'insister sur ce point. L'esthétique rhapsodique, par son essence performative et sa tendance à hybrider, joue sur les éléments divers et peut concilier les oxymores. Je m'explique. Sur scène, tout élément, qu'il soit corporel ou langagier ou matériel, vient se tisser avec un autre. La signification d'un élément est donc à comprendre dans son entrelacement avec d'autres. Ce tissage d'éléments variés et parfois non hétérogènes vient contaminer chaque signifiant. Ces enjeux de la tension et du croisement scénique conduiraient, je suppose, à la tension et au croisement systématique des concepts ou des thèmes dans le texte, pour créer une inversion des valeurs, c'est-à-dire l'amour et la haine, la vieillesse et l'enfance, la vie et la mort tendent à fusionner, à amalgamer. Ici, je tente de traiter certains de ces thèmes oxymoriques que structure la dynamique rhapsodique dans la pièce. Premier oxymore, amour et haine. Ce qui attire l'attention en lisant la pièce, c'est la tension constante entre amour et haine. Le rapport à la figure de la mère dans cette pièce, comme dans tout le théâtre de Liddell, est le rapport le plus ambivalent. Le rejet et le désir de la mère semblent inconciliables. L'amour-haine de la figure maternelle se manifeste comme une tension constante dans la pièce. Prenons un exemple. Au fil du dialogue entre Wendy et Peter, surtout dans les répliques de Wendy qui semble être pour Liddell un alter ego, sur scène, ainsi disait, je cite, Peter, par exemple, tu pourrais être ma mère, t'as l'âge de coucher avec tes propres enfants. Wendy, mais tu méprises les mères. Fin de citation. La figure de la mère est ici ravagée par le discours de Peter. Wendy est choquée, indignée par ce discours violent. Un peu plus loin, Wendy affirme à Peter son refus de devenir mère. Mais elle exprime de la compassion pour les mères humiliées par Peter. Je cite, Peter, vous jouez tout à être mère. Vous adorez être mère. Wendy, je ne veux être la mère de personne. Peter, il y aurait bien assez de femmes qui voudraient être ma mère. Wendy, tu sais ce que t'as? Ta vraie mère te manque. Fin citation. Wendy démasque Peter. La cruauté de Peter envers les femmes et les enfants qu'il va tuer n'est qu'une réaction à un manque intérieur, celui de ne pas avoir eu l'affection d'une mère. Mais l'ambivalence de Wendy, c'est que d'un côté elle défend les femmes humiliées, de l'autre elle refuse de devenir mère elle-même. Dans un autre tableau, Wendy, dans un long soliloque, exprime sa haine envers les traditions patriarcales qui forcent les filles à devenir les complices de leur exploitation. Ainsi, Wendy dénonce l'éducation des filles par leur mère, je cite, « Les mères font de leurs filles leurs jumelles nauséabondes, sans même le faire exprès, sans même s'en rendre compte. Elles pétrissent avec ce qu'il y a de pire en elles. » Fin. La fille devient un double de sa mère, une jumelle, et elle est considérée comme une pâte que l'on peut façonner à sa guise. L'éducation est donc une aliénation et une dégradation. Deuxième oxymore, c'est « enfance-vieillesse ». L'image de la vieillesse et de l'enfance est une autre image double chez Liddell. La vieillesse représente la perversité, la laideur, mais parallèlement la beauté et la douceur. Par exemple, dans la scène des danseurs de valse que Wendy rencontre à Shanghai, un couple de vieux chinois danse sur scène et enchante Wendy. Cette scène montre un monde de douceur où les vieux sont beaux et amoureux. Cependant, cette image aimable de la vieillesse se transformera en un terrible réquisitoire contre les personnes âgées dans un autre tableau. Ici, les vieux pervers sexuels avec lesquels Wendy clavarde sont répugnants et vils. Non pas parce qu'ils sont pervers, mais parce qu'ils sont vieux. Ici, les adultes et les vieux sont donc les plus méprisables. Paradoxalement, ces vieux pervers sont sympathiques car ils sont seuls et abandonnés comme Wendy. Et elle reconnaît en eux un double du fait de leur marginalité. Je cite, « Ils sont aussi seuls que moi. Je les préfère sans aucun doute à ceux que je connais. » Fin. Par ailleurs, pour Wendy, les vrais pervers malveillants sont tous ceux qui jouissent de ce que le texte nomme un supplément de dignité, comme les mères. Ce que dénonce la pièce, c'est donc l'hypocrisie sociale. Liddell démasque cette mascarade sociale. Je dois un peu sauter de citation. Et les enfants. Pour Wendy, tout ce qui assume des valeurs socialement partagées devient laid, abject et hypocrite. Pour elle, les enfants, au contraire, sont les images de la pureté et de l'innocence. Pourtant, elle désire les enfants d'une manière érotique. Je cite, « Désolée, moi, ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. Les êtres que j'aime sont tellement petits, tellement pâles, tellement enfants. Un jour, je vais mourir à la porte d'une école tellement sénile, tellement corrompue. » Enfin, attirée par ce que représentent les éternels jeunes mœurs du Toya, beauté et fraîcheur, Wendy éprouve un sentiment érotique pour ces cadavres qui ressemblent aux enfants qu'ils ne vont jamais grandir et donc ne jamais vieillir. L'ambivalence désir-souffrance et Rostanatos permettent à l'écrivain de sublimer ses douleurs. Pour moi, la souffrance est la norme, ce qui est étrange, c'est le bonheur. Et la dernière, c'est Oxymore, la vie et la mort. Au début de la pièce, jusqu'à la fin, la scène du théâtre devient un grand espace hybride où se rencontrent l'amour et la vie. Le plateau est orné d'un tas de terre plantée, de petits sapins et de quelques fleurs qui rappellent l'ambivalence du cimetière. Pourtant, la représentation scénique autour de cette masse de cendres prend une allure rituelle cérémoniale. Les valses, la performance chorégraphique et les musiques variées révèlent un univers festif. Les frontières, en effet, entre le monde des morts et celui des vivants grâce aux dispositifs rhapsodiques sont brisées, violées, transgressées. La scène devient alors un lieu de va-et-vient entre la vie et la mort. La fusion des lieux fait en sorte que les danseurs d'Ovals à Shanghai semble fêter la mort des victimes sacrées Tsurotaya. On peut dire que cette représentation gay et cérémonielle est une célébration à la gloire des victimes de la tuerie, une sacralisation des morts vivants. Des lieux personnifiés dans lesquels la vie et la mort basculent, Utoya et Shanghai sont à la fois réels et imaginaires. L'Utoya est symbole du cynisme, de l'isolement et de la mort, et Shanghai est symbole de la vie, de la musique, de la danse et de la joie. J'ai combien de temps?
Deux, trois minutes.
D'accord. Le voyage de Wendy à Shanghai et son retour symbolique à Utoya montrent sa tentative de rencontre à l'île où réside son trauma et sa blessure sans qu'il veuille nier son désir de vivre. Ce retour pourrait réconcilier les deux endroits qui sont symboliquement opposés mais complémentaires. Elle dit « Je resterai bien avec toi », c'est-à-dire Shanghai, « sur Utoya ». Wendy voudrait conserver Shanghai sur Utoya, qui est considéré comme le lieu sacré des véritables vivants, des cadavres innocents qui ne vieillissent jamais, ce que dit Wendy en évoquant les victimes. Je cite « Même les cadavres étaient pleins de vie et mon corps vivant était presque mort. » Alors le réel et l'illusion s'entremêlent, Shanghai et Utoya s'unissent pour ne devenir qu'un seul espace. Et je conclue. Le théâtre d'Angelica Liddell est marqué par l'écriture intertextuelle et la pratique interdisciplinaire. L'écriture de plateau, qui compose ici une friction permanente du texte et de la scène, inscrit ainsi la pièce dans une dynamique rhapsodique. L'esthétique rhapsodique est une forme de polyphonie oxymorique par l'interchangeabilité établie entre les différents arts et médiums. Dans tout le ciel au-dessous de la terre, le syndrome de Wendy, le corps du texte, le corps de la scène et le corps de l'actrice performeuse s'associent pour construire un corps du drame qui est hybride, éclaté et monstrueux comme celui d'un mort vivant. Dans ce genre de théâtre rhapsodique, c'est surtout la tension et l'ambivalence entre les divers matériaux et dispositifs qui permettent la transgression. Cette porosité des genres artistiques permet à l'auteur l'abolition des frontières entre les concepts et thèmes opposés pour transformer le contenu, l'abject en sacré et l'horreur en beauté, comme dans une danse sacrée macabre. Merci beaucoup de votre écoute.
Merci.